Radio Okapi. À la présentation du journal, Bibi Moukonkole. Okapi. La MONUSCO déterminée à lutter d'urgence contre l'insécurité à Pinga dans le Nord Kivu. Déclaration aujourd'hui du chef de la mission onusienne en RDC. Martin Kobler était en visite dans cette localité où sévit l'insécurité causée par la présence d'un groupe armé et de plusieurs milices. Toujours au Nord Kivu, une centaine d'avocats et défenseurs judiciaires de Butembo décident de ne plus prester devant toutes les juridictions de cette ville. Ils dénoncent le dysfonctionnement du tribunal de grande instance de Butembo. L'actualité, c'est aussi cette lutte contre la maladie des bananiers à Minova. C'est l'œuvre de l'ONG World Vision qui a organisé des formations au bénéfice des membres des associations locales des groupements. Bonsoir. La MONUSCO est déterminée à résoudre le problème d'insécurité à Pinga. C'est ce que vient de déclarer aujourd'hui le chef de la MONUSCO, Martin Kobler. C'était lors d'une visite de quelques heures dans cette localité située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale. Cependant, la population locale souhaite voir le gouvernement envisager comme solution des pourparlers avec Sheka plutôt que des opérations offensives. Bernard Nyang pour les détails.
C'est depuis plus d'une année que Pinga est sous occupation du groupe rebelle Nduma Defense of Congo d'un Tabon Tabere Sheka. Cette milice locale se bat constamment contre les milices APCLS, FDLR et Nyatura basées dans le territoire de Masisi. Ces affrontements, dont le dernier en date remonte au 20 octobre dernier, ont des conséquences néfastes sur la vie socio-économique. Pinga est resté enclavé et coupé de tout axe d'approvisionnement en tout. Des villages périphériques restent déserts, des écoles, hôpitaux, commerces et autres activités tournent au ralenti. Quelques centaines de familles qui résistent encore vivent misérablement. Pour le chef de la MONUSCO, cette situation requiert une réponse d'urgence. Martin Kobler.
C'est très intéressant de voir la situation ici parce que nous avons combattu le M23 maintenant. J'ai vu beaucoup des visages heureux dans les autres territoires de Nord Kivu. Ici, je ne vois pas les faces heureux des gens. Ils sont torturés, ils sont sous la direction des groupes armés et c'est notre tâche de changer la situation.
Les autorités coutumières locales qui craignent les conséquences des opérations offensives comme voie de sortie à cette crise ont recommandé au chef de la MONUSCO de privilégier plutôt un dialogue avec Sheka. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu, toujours le gouverneur de province, conteste vigoureusement le chiffre de 1700 combattants du M23 avec à leur tête Sultani Makenga en fuite en Ouganda. En effet, hier jeudi, un haut responsable militaire ougandais qui a requis l'anonymat avait affirmé aux médias internationaux qu'environ 1700 rebelles du M23 étaient entrés en Ouganda et s'étaient rendus à l'armée ougandaise. Julien Paluku estime qu'il s'agit d'une autre stratégie des rebelles et de leurs alliés pour infiltrer l'armée congolaise. Julien Paluku, joint par Denise Lukesso.
Avec tous les combats de Kanyaruchinya, de Kibati, avec les combats qui ont amené à prendre aujourd'hui Tchanzu, il y a eu beaucoup de blessés et certainement beaucoup de décès. Comment quelqu'un peut-il encore aujourd'hui dire qu'il a 1700 personnes? Moi, je considère cela comme une autre stratégie du M23 et ses alliés de chercher à infiltrer au sein des FARDC des éléments, soit rwandais, soit ougandais, au motif que ce sont des éléments qui sont les résultats de la bonne foi de Makenga. Donc pour moi, il n'est pas question que ces chiffres soient reconnus. On ne peut accepter que Makenga puisse peut-être avoir entre 100 et 150 personnes au stade actuel. Parce que nous avons plus de 400 rendus, il y a 700 qui sont au Rwanda, il y a d'autres qui sont tombés sur les champs de bataille. Donc pour nous, au niveau de la province Nord Kivu, nous rejetons totalement ces chiffres. Comme vous le savez, les suspicions qui pèsent sur les pays de la région ici ne font plus l'objet d'un doute. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse faire foi à ces genres de déclarations.
Restons au Nord Kivu pour parler environnement. La ville de Goma et ses environs toujours sous une menace permanente des volcans Nyiragongo et Nyamulagira. Selon Dario Tedesco, chef de projet de l'UNOPS, la prochaine éruption du volcan Nyiragongo pourrait même commencer directement dans la ville, ce qui pourrait être la plus grande catastrophe mondiale du siècle. Les propos de Tedesco recueillis par Honoré Missinga.
Le Nyiragongo est toujours très actif, il a un lac de lave permanent à l'intérieur. Le lac de lave depuis 2002 a monté de 600 mètres. Avec des scientifiques de l'OVG et étrangers, on a écrit pas mal d'articles scientifiques, mais surtout il y en a un qui est important, c'est qu'on connaît exactement le volume de lave qui est à l'intérieur. Donc à partir de ce volume de lave, en imaginant les éruptions de 2002 et de 1977, on peut imaginer jusqu'où la lave pourrait arriver. On a plusieurs millions de mètres cubes de lave à l'intérieur aujourd'hui. Ça veut dire que c'est hyper dangereux. À tout moment, s'il allait faire éruption, atteindrait la ville de Goma. Mais pas seulement ça, on sait aussi que la prochaine éruption pourrait commencer directement dans la ville de Goma. Ce qu'on connaît exactement aujourd'hui, c'est que la fracture s'est ouverte un peu en 1977. Elle s'est propagée carrément dans la ville de Goma en 2002. Donc la prochaine éruption pourrait commencer de là où la fracture s'est terminée, donc en ville.
Toujours dans le même chapitre environnement, notez que la ville de Mwanda est polluée. La plus grande responsabilité revient au gouvernement congolais. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir des conclusions de la commission d'enquête sur la pollution causée par l'exploitation pétrolière dans le Bas-Congo. Le rapport de la commission Monsendou a été présenté aujourd'hui à la plénière du Sénat. Dans ce document, la commission cite la société Perrinco comme responsable de cette pollution. La commission déplore également l'irresponsabilité du gouvernement face à ce drame. Mimi Ngumba Mulongo pour les détails.
L'enquête a démarré après la mise en place de la commission en décembre 2012. Sur place à Mwanda, elle a non seulement fait le constat, mais aussi procédé au prélèvement des échantillons. Avec l'expertise de deux institutions scientifiques internationalement reconnues, la commission conclut...
Perrinco, qui est en exploitation, le fait en dehors des normes environnementales requises, et au pays et au monde.
Bref, le président de la commission, le sénateur Flore Mosendou, confirme que l'air, le sol et les eaux sont pollués. Il faut donc agir vite, ajoute-t-il.
D'abord, de collecter tout le gaz qui y est rejeté à l'air, le traiter, le liquéfier et le mettre à la disposition de la population sous forme de gaz liquide. Comme ça, c'est utilisé comme énergie domestique. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où le gouvernement doit prendre ses responsabilités et voir si Perrinco s'incline à nos recommandations, on évolue, sinon aller dans des positions drastiques.
Entre-temps, le document renseigne que la société incriminée, soit Perrinco, contribue au budget de l'État à hauteur de 7%.
Parlons justice. Plusieurs avocats et défenseurs judiciaires de Boutembo décident de ne plus prester devant toutes les juridictions de cette ville. Boutembo est une agglomération située à plus ou moins 300 km au nord de la ville de Goma. Ces avocats et défenseurs judiciaires qui ont pris leur décision hier jeudi en dehors du barreau parlent de dysfonctionnement du tribunal de grande instance de Boutembo. Martial Papimoukeba.
C'est une centaine d'avocats et défenseurs judiciaires de Boutembo qui décident de sécher les audiences devant les tribunaux, parquets civils et militaires et au niveau de la police judiciaire. Dans un communiqué de presse rendu public hier jeudi, ces hommes de toge justifient leur décision par plusieurs faits. Ils parlent d'abord du phénomène avocat sans toge, c'est-à-dire des personnes proches de certains magistrats et qui suivent des dossiers devant les juridictions alors qu'ils ne sont ni avocats ni défenseurs judiciaires. Ceci en violation du monopole reconnu aux seuls avocats et défenseurs judiciaires soutiennent ces avocats en colère. Dans ces mêmes documents, ces avocats dénoncent les dysfonctionnements du tribunal de grande instance de Boutembo. Ils parlent de l'indisponibilité récurrente de son président, du monnayage des décisions de justice et du non-respect du délai de prononcer des jugements. Les avocats et défenseurs judiciaires de Boutembo demandent une commission d'enquête du Conseil supérieur de la magistrature pour mettre fin à ces pratiques. En réaction, le président du tribunal de grande instance de Boutembo rejette toutes ces accusations. Les juges Womodi affirme que son tribunal fonctionne très bien. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Les membres des associations locales des groupements Mufuni, Shanga, Mbinga, Nord et Bouzi Minova invités à s'impliquer vivement dans le processus de lutte contre la propagation de la maladie du bananier. Invitation lancée hier par le coordonnateur de l'ONG World Vision au cours d'une séance de formation. Pour Justin Mouliri, son organisation met en place un mécanisme pour la lutte contre le wilt bactérien afin de permettre à la population de continuer à cultiver les bananiers sans perdre leur culture. Le pourquoi de cette invitation avec Ezekiel Batoumike de la radio communautaire Boubandano.
La maladie du bananier est signalée dans ces trois groupements il y a environ 6 ans. Selon le chef de ces entités, plus de 1000 hectares de bananiers sont détruits par cette maladie. Pour Sangara Sinzobe Martin du groupement Bouziminova, l'économie de leur population repose essentiellement sur la culture du bananier. Ces bananes entrent également dans la fabrication des jus, de l'alcool indigène et d'autres produits. Ces biens sont vendus à Goma, à Bukavu et au Rwanda. Cette activité permet aux habitants de scolariser leurs enfants et répondre à d'autres besoins vitaux. La paille tirée du bananier sert également à préparer des lits pour certains habitants dépourvus de moyens. La destruction du bananier par cette maladie pousse ses habitants à remplacer leur culture par le manioc, les taros, les haricots et le maïs. Selon les agriculteurs, ces cultures ne sont pas très rentables sur le marché. Selon le coordonnateur de ce programme, cette démarche vise à produire des richesses à travers la multiplication des pépinières. Minova, Ezekiel Batumike, Radio Communauté Bouvandano pour Radio Okapi.
Et puis pour terminer, sachez aussi que Jacques Njoli reprend son poste d'ancien vice-président de la CENI, sa place au Sénat. Sa résiliation a eu lieu ce vendredi à la plénière de la Chambre haute. C'était sur proposition de la Commission politique, administrative et judiciaire. Cela après avoir étudié et approuvé la requête du sénateur Njoli à cet effet. La Commission fonde sa décision sur l'article 110 de la Constitution, une décision qui réjouit le concerné qui promet de se mettre tout de suite au travail. Voilà, c'est tout pour cette édition du soir sur Radio Capi. Merci de l'avoir suivi.
Oh, Capi. Oh, Capi, yeah. Radio, oh, Capi.